Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Ça ne m'intéresse pas d'être un top. Je préfère être un mannequin. Mannequin qui fait de l'argent, qui s'est fixé un but et va tenter d'y arriver. C'était en 1970, époque où les mannequins hommes, c'est d'eux qu'il s'agit, se demandaient si être mannequin était un métier pour hommes, ou plutôt on se le demandait autour d'eux. Gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, légalement bien sûr, honnêtement, si l'on est grand et pas trop mal fait si possible. Devenir mannequin donc. Pas pour les défilés, à l'époque c'était mal payé, mais pour les catalogues. Pour la mode, attention, pas pour les lessives. Et la reconversion des mannequins hommes. Et les photos de nus. Je n'en fais pas, affirme un mannequin, tout de suite démenti par son agent. Le monde insolite, les mannequins au masculin, par Nadia Voynovitch. Réalisation Colette chez Mama, première diffusion sur France Culture, le 13 janvier 1974.
Narcisse se baigne nu, de jolies filles nues viennent le voir. Narcisse sort de l'eau, s'approche d'elle et s'aperçoit qu'il n'est plus tout à fait le même. Quelque chose en lui a changé. Il se caresse de la main, étonné de donner, sans le vouloir ni le savoir, comme un jeune cheval entier, l'épreuve de sa naissante virilité. Et retourne dans l'eau, plus ébloui que gêné, et regarde les filles, puis, dans l'eau à mi-corps, se regarde encore, et voit, par un phénomène de réfraction, un bâton brisé. Il se noie, déçu, enfantinement désespéré.
On m'a un jour proposé de représenter, de diffuser, de manager des modèles photographiques. Quand on m'a parlé des mannequins, je me suis posé la question pour savoir ce qu'étaient des mannequins. Il y a de ça 14 ans environ, je n'avais même pas réfléchi, je n'avais même pas pensé que les gens, je voyais les représentations humaines que je voyais dans les magazines, étaient des mannequins professionnels. Je ne m'étais pas posé la question, tout simplement. À la suite de hasard, j'ai rencontré différentes personnes qui voulaient avant tout en faire une affaire et qui voulaient créer en fait une représentation de mannequins, un management de mannequins, aussi bien qu'on le fait pour des gens de musical ou des gens de la chanson. Et c'est ce qui m'a poussé à démarrer cette agence de mannequins. Alors, une agence de mannequins, c'est difficile à expliquer. Disons que dans les grandes lignes, simplement, on se contente de tenir des calendriers de travail, de faire une préparation des mannequins pour pouvoir les présenter selon leur spécialité aux clients qui peuvent en avoir besoin pour des réalisations de photos, et on supervise toutes leurs activités en les dirigeant. J'ai réuni aujourd'hui 4 mannequins différents de l'agence. Tout d'abord David Hollander, américain, 1m84, brun, yeux noisette. Paul Nord, américain, blond, 1m83, yeux bleus. Alain Léger, 1m80, français, brun avec des yeux noisette également. Et Frédéric Lagache, 1m85, blond, avec des yeux verts, français. J'ai choisi ces 4 mannequins parce qu'ils ont tous une personnalité différente et en quelque sorte une activité un peu différente tout en travaillant comme modèle photographique, parce qu'ils sont en fonction de leur caractère et de leur physique plus précisément employés pour la publicité ou pour la mode. Tout d'abord Frédéric Lagache.
Oui, enfin, on parlait de mannequins à caractère différent, c'est-à-dire au début, quand on s'amène dans une agence comme ça, avec un book, en général, on a deux ou trois photos qui sont aussi mauvaises, enfin, les unes que les autres. Et l'agence nous dirige, on a une certaine orientation, c'est-à-dire on est désigné à faire ou une carrière dans les catalogues, ou les deux en même temps, enfin, c'est-à-dire du rédactionnel. Il y en a qui choisissent de faire une carrière d'argent, enfin, étant très bien payé, c'est-à-dire le catalogue, la publicité, et d'autres qui sont de toute façon au début obligés de passer par le rédactionnel, c'est-à-dire des journaux Vogue, Elle, Marie-Claire, qui sont des journaux de prestige. Puis une fois que vous avez un book, eh ben, vous dirigez, vous choisissez la carrière à laquelle vous voulez vous orienter.
C'est pas automatique, selon vos... parce qu'il y a un jeu là-dedans aussi. Il y a aussi le jeu d'arriver à une certaine qualité de photo qui est apportée davantage, soit par des magazines ou des travaux de prestige, et qui permettent après de valoriser des travaux plus commerciaux en fonction de ce qu'il y a eu une diffusion avec plus de prestige, de toute façon.
J'ai commencé à faire beaucoup de rédactionnel, tout ça. Et j'avais des projets de bateau à voile. Enfin, on a tous un chemin qu'on se trace, comme ça, qu'on essaie de suivre plus ou moins. Bon, je fais le métier de mannequin depuis 3 ans, 4 ans. C'est mon père d'ailleurs qui m'a conseillé, mon père est reporter, il m'a conseillé de faire ce métier. Si je voulais mettre en un minimum de temps, le maximum d'argent de côté pour m'acheter ce bateau. Voilà.
Moi, je représente plus ou moins le côté de débutant dans ce métier. Ça veut dire que j'ai expérience les fluctuations des changements du travail. Qui sont gouvernés par l'argent liquide qu'il y a dans une société à un moment ou un autre. Que mon travail s'arrête et s'arrête quelquefois. Il recommence à arriver à le niveau de Frédéric, par exemple, à faire des économies en attendant pour acheter un bateau. À ce moment, j'ai fait plutôt les économies pour payer ma note d'hôtel. Je crois que quand même tous les mannequins, au moins des mannequins, parce que il faut réaliser tout d'abord qu'on est dans un métier de femme, que les hommes ils sont pris au début comme accessoires et dans les cas très rares, sont utilisés pour leur propre personnalité telle quelle. Et c'est plutôt le mannequin qui passe partout. Qui représente un homme quelconque agréable à regarder, qui réussit. Voilà.
J'ai commencé aux États-Unis. J'ai fait à Californie des films de télévision, tout ça. Je suis venu en Europe pour faire 5 semaines de vacances. J'étais chez François Lannon. Gentiment, il m'acceptait. Et ça fait 3 ans que je suis là maintenant. J'ai fait beaucoup de voyages dans des pays étrangers. Je ne connais pas avant et j'ai gagné assez bien de l'argent. Alors, pour moi, c'est la liberté et c'est une façon de gagner de l'argent maintenant pour faire quelque chose après.
Il sera question des femmes et de la féminité, de l'argent encore et des voyages.
Le rapport avec un métier de femme, je crois que c'est là le problème. Enfin, rester conscient de ça, c'est-à-dire le factice, l'argent qu'on gagne facilement en un minimum de temps. Moi, ça m'a jamais touché. Enfin, je veux dire, je pense pas avoir bougé beaucoup. Enfin, si on peut dire intellectuellement et physiquement de ce côté-là, je veux dire, ça m'a vraiment pas heurté du tout.
Je voudrais bien que Paul nous explique pourquoi il trouve que c'est un métier de femme, parce que je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Oui, mais j'aimerais bien qu'il nous dise pourquoi il trouve que c'est un métier de femme. Je trouve que déjà, le fait d'être mannequin photographique homme, si on a une représentation masculine, ne peut absolument pas être un métier de femme. Au moment où vous posez uniquement, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous posez des vêtements pour du prêt-à-porter, ou vous faites de la publicité, ou vous faites de la publicité pour des banques, pour des cigarettes, pour du sport, pour différentes choses. Ça ne peut absolument pas être féminin. Disons que c'est un métier qui a commencé où on utilisait la personnalité féminine et qu'on a utilisé des mannequins parce qu'avant tout c'était des choses de mode au début, mais ça a énormément évolué depuis des années. Je voudrais bien que Paul nous explique pourquoi il trouve que c'est un métier de femme.
On se considère, au moins les photographes se considèrent plus ou moins comme artistes. Ce n'est pas tellement une façon à bien montrer les vêtements plutôt qu'à montrer une certaine ambiance. Et cette ambiance est pratiquement illimitée chez les femmes. Il y a sûrement une gamme des personnalités qui puissent se présenter qui est beaucoup plus large chez les femmes que chez les hommes. Il y a le problème de, chez les hommes, par exemple, en faisant des photos qui sont dites tendancieuses, qui n'existent certainement pas chez les femmes. Il y a aussi le problème que, au point de vue de maquillage, que dès qu'on sort d'une certaine image acceptable à le plus grand nombre, le plus grand public, on risque de ne pas plaire à certains gens qui peuvent être assez influençables sur l'avenir immédiat d'une carrière. Voilà.
Tout dépend de l'individu, je crois, de toute façon. Je veux dire, il y a des êtres plus ou moins sensibles dont la profession va exercer une certaine influence sur leur être. Je connais des garçons d'une grande valeur dans ce métier et qui ne sont pas du tout féminins. Moi, ça m'a permis de rencontrer des femmes très très chouettes, des hommes extraordinaires. Et, enfin, il y a un tri à faire, c'est tout. Je crois que le métier de mannequin, c'est un métier très chouette à partir du moment où on le prend comme un métier de public relations, c'est-à-dire il y a un physique au départ, vous avez la taille mannequin, et puis à côté de ça, il y a les relations qui comptent énormément, c'est-à-dire les relations que vous avez avec les clients, les photographes, les autres mannequins. Il y a des choses que je ne veux pas voir dans ce métier, c'est-à-dire il y a de bonnes choses, de mauvaises choses, ben je prends vraiment le bon et le mauvais, je le laisse de côté.
J'estime que ce n'est pas du tout un métier féminin, pas plus un métier féminin que le fait d'être coiffeur ou d'être dans des salons de produits de beauté ou d'être artiste de music hall ou n'importe quel métier qui peut s'apparenter à un métier féminin. Le fait que des femmes conduisent, les hommes conduisaient avant les femmes, maintenant toutes les femmes conduisent, c'est pas pour ça qu'elles sont masculines, ça n'a rien à voir. Toutes les femmes qui conduisent les autobus maintenant, ou les femmes qui sont de couleur rouge sombre et qui s'occupent de nous mettre des contraventions, on n'a pas décidé que c'était des agents de police pour autant et qu'elles étaient masculines. Je vois pas très bien pourquoi les mannequins hommes ont une espèce de réticence et presque de complexe devant leur métier. Je suis pas d'accord sur ce côté féminin du travail. Il y a une chose, tous les trois, dont vous parlez chaque fois de l'argent. Bon, le fait que vous parliez tellement de l'argent en fonction de votre profession de mannequin, ça détermine déjà la qualité d'un travail. Donc, c'est pas du tout une chose que vous faites en riant et en vous amusant. Ça représente réellement un travail qui vous permet de gagner de l'argent. Un travail qui est très bien payé. Vous amassez de l'argent relativement rapidement, que vous dépensez encore plus rapidement en fonction de votre âge et en fonction de la vie que vous menez, parce qu'il y a une vie qui n'est pas établie, parce que vous êtes tous jeunes, parce que vous ne pensez pas à demain et vous avez parfaitement raison de le faire. Et c'est un moyen pratique, à mon avis, ou pour David Hollander de se balader dans le monde entier, de découvrir des choses nouvelles, ou pour Frédéric Lagache de rencontrer des êtres nouveaux, des caractères nouveaux, ou pour Paul qui fait ce métier. Pourquoi tu fais ce métier en fait, Paul ?
Il y a 2 ans, j'étais un soi-disant étudiant, comme beaucoup de reste des gens. Ça veut dire que je n'avais pas d'argent ni un métier. J'ai aperçu par quelques amis que j'avais la possibilité de faire ce métier. C'est certainement un métier qui est aussi valable que n'importe quel autre et certainement plus excitant que beaucoup.
Ce métier a déjà une chose merveilleuse, c'est que les gens qui font ce métier-là font un métier qu'ils aiment. Alors ça, c'est déjà une chose extraordinaire dans la vie, de pouvoir faire une chose qu'on aime et en plus d'en tirer de l'argent.
Moi, j'ai fait de peinture à côté, de tableaux, j'ai lu beaucoup, j'ai fait un tas de choses à part de ce métier. J'ai fait ce métier, j'ai gagné de l'argent et c'est un peu difficile parce que ça prend beaucoup de temps, mais enfin, je ne me sens pas tellement féminin.
Je me suis plus orienté vers le catalogue, vers l'argent. Parler crûment, et j'ai fait du catalogue, mais on peut faire des défilés, c'est toujours moins bien payé que du catalogue, mais enfin quand on n'a pas de catalogue on peut faire des défilés, quand on n'a pas de défilé ni de catalogue on fait du rédactionnel, enfin on prend le travail comme il vient. Faites des photos par exemple de survêtements ou de costumes, votre photo passe dans un ordinateur et vous devenez un jour monsieur survêtement ou monsieur costume, c'est-à-dire que vous vendez bien du survêtement ou du costume ou du slip ou n'importe quoi, enfin, bon, tout ce qui est dans un catalogue. On arrive, enfin, c'est plus l'usine, si vous voulez, on arrive le matin à 9h, on part le soir à 6h, on fait du catalogue, et puis on vous met un manteau, vous devez le vendre, ce manteau, donc on fait appel à votre persuasion, persuader la clientèle du catalogue, c'est tout. Mais ça rapporte plus d'argent, parce que d'abord, les catalogues ont plus d'argent que les journaux de mode, Et les journaux de mode vous font travailler parce que ce sont, enfin, ça s'appelle du prestige. Donc vous faites du prestige, donc ils vous payent beaucoup moins.
Oui, pour les catalogues aussi, Frédéric oublie de signaler qu'il y a des... Bon, on a plusieurs très grands catalogues en France, il y a des grands catalogues à l'étranger également. Premièrement, ils ont un laps de temps d'utilisation qui est relativement important, puisqu'un catalogue français utilise pendant 2 fois 6 semaines par an certains éléments qui les reprennent très régulièrement. Il y a donc une masse de travail qui arrive, qui est assurée, en fonction des ventes qui sont réalisées d'après un certain mannequin, ce qui est absolument exact. Et ça représente évidemment des contrats qui font de l'argent. Le grand problème du mannequin, c'est un problème de renouvellement. Un renouvellement pour un mannequin homme, c'est pratiquement impossible, parce qu'il peut avoir une évolution au point de vue style, c'est-à-dire qu'il peut être dans un style catalogue ou dans un style magazine, mais en dehors de ça, il a peu de possibilités de se renouveler. Un mannequin féminin peut se renouveler avec du maquillage, avec des perruques, avec une évolution du style féminin. Un homme ne peut pas le faire. Il y a un phénomène qui est assez bizarre, il y a un phénomène d'usure. Quand un mannequin a été trop exposé et qu'il a été très exposé notamment au point de vue publicitaire, il est devenu presque une image de marque. Il est bien évident qu'on peut difficilement l'utiliser pour d'autres marques que la marque qu'il a représentée. Ce phénomène-là n'existe pas dans le catalogue. Il y a une usure qui se produit aussi dans les catalogues parce qu'au bout de 2 saisons ou 3 saisons, les grands catalogues français diront non, on a utilisé Frédéric pendant les 3 derniers catalogues, maintenant il faut qu'on change de visage, mais il n'a pas été usé au point de vue commercial. Donc le catalogue est très pratique à faire pour cette durée de contrat qui représente beaucoup d'argent et pour cette usure qui n'existe pratiquement pas parce que les catalogues sont diffusés chez le français moyen et pas du tout exposés en général comme le sont les autres photos. Quand le photographe ou le client nous appelle en nous demandant un mannequin, nous sommes obligés d'abord de savoir pourquoi, à quoi il destine l'utilisation de ce mannequin et ce qu'il désire réaliser comme photo. Et en fonction des impératifs qu'il a, on lui sélectionne automatiquement les mannequins qui semblent correspondre à ce qu'il recherche. Le client ou l'utilisateur du mannequin peut très bien désirer faire une certaine photo et en fonction de la prise de vue ou des qualités du mannequin, il peut y avoir une évolution d'utilisation. Mais a priori, il sait très bien ce qu'il veut faire parce qu'il fait ou une photo de mode ou une photo de publicité. Donc, a priori, il n'y a pas tellement d'utilisation différente de ce qui avait été prévu initialement.
Vous ne pouvez pas, en tant que mannequin, assumer de faire un film publicitaire pour une marque d'Esquimaux et faire 2 mois après un film pour une autre marque d'Esquimaux, parce qu'à ce moment-là, on va vous voir dans les salles en train de manger à toutes les tables. Bon, ça, c'est le mannequin qui dirige son truc. En ce qui concerne ce que le client désire, ce qui se passe au moment de la photo, moi, j'ai eu en 4 ans la seule anecdote qui m'a fait rire un peu. Je travaillais en Italie. Et c'était, on m'a téléphoné pour faire des produits de beauté. Je suis arrivé sur place, on m'a fait un maquillage, voilà. Bien maquillé, on a fait une très belle photo de beauté. Et puis au bout de 3 heures, on m'a démaquillé. On a voulu me maquiller de faux boutons sur le visage pour une crème anti-acné juvénile. Et à ce moment-là, j'ai pris la responsabilité de me lever et de sortir du studio. Parce que le client n'avait pas signalé ça à mon agence. Bon, mais ça, ça incombe au client, si vous voulez. Enfin, c'est le seul problème que j'ai eu avec un client. J'ai refusé de faire des lessives, de vendre de la lessive, parce qu'à ce moment-là, on devient monsieur Ajax, ou je sais pas, enfin, je veux dire... ou de faire du nu, parce que j'ai pas envie de faire de nu, j'ai pas envie de faire de slip non plus, parce que j'ai pas envie de
vendre. Premièrement, il dit 2 choses fausses. Il dit 2 choses fausses. Premièrement, c'est qu'il a fait une photo nue, hein, de dos... et de face, intégralement nu. Donc quand il me dit qu'il refuse de faire du nu, il l'a fait.
Oui, mais alors, je vous dirai pas le prix.
Deuxième chose, non seulement il refuse de faire du nu, mais il refuse aussi de faire du maillot de bain parce qu'il a eu 6 côtes enfoncées et qu'il trouve que... et c'est toi qui le trouves parce qu'en fait, les gens te demandent aussi bien de faire des maillots de bain et tu as toujours refusé des maillots de bain en disant non, j'ai eu 6 côtes enfoncées et c'est pas bien à la photo.
J'ai fait du maillot de bain. Ça s'est très bien passé, il n'y a eu pas eu de problème. Simplement, par conscience professionnelle, je ne veux pas mettre le client sur un fait accompli. Bon, ça, c'est réglé. En ce qui concerne les photos de nu, j'en ai fait qu'une fois. On était 4 mannequins. C'était pour une marque de pantalon. Pendant 10 jours, il y avait un affichage de 10 garçons nus dans la rue sans rien. Et 10 jours après, on passait l'affiche, les garçons habillés, contents et tout, d'avoir trouvé le vêtement,
leur sillon à merveille.
Et c'était pas une feuille de vigne, de toute façon. Mais pourquoi, en fonction de quoi, ça t'ennuie de faire des photos nues?
Non, je n'ai pas envie d'en faire, sauf je l'ai fait cette fois-là pour le pognon. Là, c'était très intéressant.
Mais pour le pognon, ça n'explique pas toutes les choses. Parce qu'en fait, moi, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire dans la vie. Et tu peux m'offrir une montagne d'argent et je ne le ferai pas pour autant.
Premièrement, c'était une photo d'abord qui était faite par un très très bon photographe. Ensuite, il nous avait parlé avant qu'il nous ferait signer un Polaroid, c'est-à-dire une photo que l'on tire tout de suite. Donc on est devant ce qu'il va sortir dans la rue. La photo était très très belle. J'ai signé, j'étais OK pour la faire. Il a dit, si vous n'êtes pas d'accord, après avoir fait la photo, vous me le dites. Et puis, je sais pas, on prend un autre mannequin ou quelque chose. Enfin, on se débrouillera. Bon, la photo était belle. Bon, cette photo de nu, je l'ai acceptée, je l'ai faite parce que bon, ça m'amusait. Je voulais en faire une pour voir comment ça se passait. Et j'irais pas faire une photo de nu tout seul. J'irais pas faire une campagne d'il y a 4 ans pour une marque de slip qu'avait fait un mannequin.
C'était un mannequin de chez moi. C'était Franck Protopapa. Oui. C'était la première photo nue.
Et la dernière qu'il ait faite d'ailleurs toutes.
C'est vrai, il n'a fait qu'une. Bon. Mais enfin, ça, c'est un autre problème.
Non, mais il y a. Enfin, le public, regardant cette affiche, c'est-à-dire regardant l'affiche comme celle de Protopapa et celle que j'ai faite en Allemagne, la plupart des studios. Où je travaillais après, avait cette photo affichée contre les murs et rigolait en me voyant arriver en disant « Alors, tu fais du nu et tout ça ?» Bon, mais ça a fait rire plutôt que... Je veux dire, ça m'a pas fait de tort, comme si j'avais été affiché pendant 2 mois pour une marque, pour un baril de lessive.
J'ai fait ça une fois à dos, mais pour moi, une fesse, c'est une fesse, quoi. C'est pas tellement gênant. C'est pas gênant. Et c'est payé... 2-3 fois de plus.
Il faut préciser qu'une photo de nuque, dès que ça sort dans la publicité, doit être faite avec un certain goût.
Où il s'agira de savoir comment gagner très vite beaucoup d'argent.
D'abord, c'est un comédien de théâtre. Ensuite, je vous dirai pas combien il a touché pour ça, mais c'est une somme énorme. Et
bon, je pense pas qu'un mannequin. On ne sait pas la somme qu'il a touchée. Moi, on m'a dit une somme qu'il a touchée, qui effectivement représente beaucoup d'argent. On m'a même dit qu'avec cet argent, il a acheté un théâtre, ce qui est assez bien pour un comédien, en fait. Le problème peut se présenter exactement de la même façon pour un mannequin. Le fait qu'il ait touché cette somme n'est pas en fonction de ce qu'il est comédien, mais en fonction de l'exposition et de la campagne qui a été faite, c'est tout. Je ne pense pas que ça arrêtera sa carrière de comédien pour autant, mais enfin, l'utilisation qui est faite représentait en fait une somme qui est une somme très très confortable.
On a fait des défilés avec des musiques, c'est amusant, mais moi je n'accepte pas tellement des défilés parce que c'est pas tellement bien payé, j'ai peur de l'autre travail.
Moi aussi, je l'ai fait et je dois dire que c'est une expérience assez drôle. Je me rappelle, par exemple, le défilé de Jap de l'année dernière qu'on a fait. On pense que les mannequins, ils sont des professionnels dans la mesure qu'ils sont expérimentés en faisant les défilés, mais c'est pas vrai. Moi, j'étais pas, 90% des mannequins n'étaient pas expérimentés non plus. On a vu les vêtements 5 minutes avant le défilé même. Et puis, on est sorti devant une monde des gens très critiques pour montrer les vêtements. Je dois dire qu'en voyant aussi les défilés comme spectateur, je dois dire que la plupart des mannequins, ils sont pas du tout professionnels dans cet aspect.
Défilé, bon, on est là sur un podium. Il faut marcher aisément et tout ça. Bon, enfin, je pense que ça peut être une bonne école pour un mannequin ayant des problèmes enfin, d'adaptation à ce milieu.
Où l'on traitera de l'évolution de la reconversion et des problèmes semblables qui se posent à ces hommes.
C'est un phénomène qui est peut-être plus féminin que masculin, en fait, au point de vue évolution. Ça arrive également chez les hommes, où ils ont eu une certaine difficulté à avoir du travail tout court au début, et petit à petit, en fonction d'une qualité de photogénie, d'une qualité de travail, ils ont été très demandés. Et à un certain moment, en fonction, je crois, avant tout d'une fatigue physique réelle, et puis d'une espèce de lassitude morale aussi. C'est un métier où on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas un métier, en fait, je crois, qui peut apporter beaucoup de choses aux mannequins en dehors de d'avantages financiers. Et au bout d'un moment, je crois qu'il y a des mannequins qui se fatiguent énormément de ça, qui essaient de... qui n'ont plus envie de travailler, en fait, qui deviennent difficiles, qui ont des réactions nerveuses, et qui en ont assez d'être une espèce de porte-manteau ambulant, que ce soit au point de vue photo, au point de vue défilé. Et à ce moment-là, il y a des traits de caractère qui ressortent, et vous avez des mannequins qui deviennent extrêmement difficiles. Ils deviennent difficiles pour les contacts les plus simples, où ils deviennent très nerveux, ils refusent de faire différentes choses, ils disparaissent, ils s'échappent de la chose. Mais je crois que c'est un phénomène, c'est peut-être davantage un phénomène d'énervement de civilisation et de rythme de travail, qui est poussé par un caractère réel, un caractère personnel.
Où les mannequins, ils sont obligés de porter leur propre personnalité, quoi que ce soit, et de le faire lier avec les gens, ou avec sûrement une personne, particulièrement une femme, ou même beaucoup des autres gens qui sont sur le même plateau. Et moi, je trouve une expérience qui stimule, qui est même artistique, voilà.
J'ai vu chez vous des petites photos, enfin vous faites les fiches signalétiques, et là, il y a les photos des mannequins. Et certains ont une personnalité très marquée, je pense notamment de grands blonds, ou alors des beaux ténébreux, enfin il y a vraiment la phototype. Est-ce qu'ils ne sont pas des fois pris au piège un peu de cette personnalité quand même, qu'on a forgée avec la photo?
C'est un phénomène que vous avez aussi bien au cinéma ou au théâtre, et qui existe depuis des années. C'est un phénomène qui existe aussi bien dans la vie de tous les jours, au milieu d'un bureau où vous allez avoir 30 personnes qui sont réunies, ou un vendeur de grands magasins, ou une espèce de super athlète de foire de village. Je ne crois pas que ce soit un phénomène mannequin, c'est un phénomène humain qui est simplement déplacé dans un milieu nouveau et dans une activité tout de même relativement jeune que représentent les mannequins photographiques.
On est grisé, on gagne des sommes assez considérables pour le travail que l'on fournit. Je connais personnellement peut-être deux cas sur un nombre assez gros de mannequins qui ont fait ça pendant, enfin je sais pas, 15 à 20 ans, qui sont restés lucides physiquement, intellectuellement, n'ont pas bougé, n'ont pas changé, ils ont eu de l'argent, Puis après il y a une réadaptation, c'est-à-dire qu'ils ont mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir monter une affaire quelconque. C'est-à-dire, je peux citer le cas d'un mannequin qui était chez François, qui a monté une affaire de pantalons, qui a fait une réussite fantastique dans son élément, c'est-à-dire le pantalon. Bon, enfin, on prend cette réussite comme telle. En tous les cas, il a fait 8 ans de mannequin, et un jour, il a su trouver un biais. Pour lui, ça a très très bien marché. Mais pour d'autres, c'est assez dramatique. C'est-à-dire, c'est très bien de traire la vache à lait, mais je crois qu'il faut s'arrêter le jour où la vache a encore du lait, et pas la traire jusqu'au bout, parce que je crois qu'il faut partir le jour où le client vous demande encore. Pour moi, je me suis fixé un temps, c'est-à-dire 6 à 7 ans vraiment maximum, parce que je sais que quelque part, ça peut avoir une influence sur mon intellect. En tous les cas, on prend moins le temps de lire, et on a beaucoup plus de temps que si on exerçait n'importe quelle autre profession. On a les moyens d'apprendre à parler plusieurs langues, on les parle pas, on parle tous plus ou moins l'anglais, si vous voulez, mais c'est... Je pense qu'on passe à côté de plein de choses. Et la réadaptation d'un mannequin à une autre profession, après avoir gagné beaucoup d'argent, est difficile. Et ça, je crois que c'est un des problèmes les plus importants. Dans le métier de mannequin, on se crée des besoins qui peuvent être tout à fait factices aux yeux du public. Enfin, c'est une profession complètement à part. Tous ces voyages, cet argent que vous gagnez comme ça, en un temps minime, peut quelque part détruire quelque chose de spontané chez l'être qui exerce ce métier. Et ça, c'est dangereux. Ce qui, pour ma part, au début, a été assez difficile. Pendant 2-3 ans, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai vraiment claqué ce fric, enfin, pour parler crûment. J'ai vraiment claqué tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, non, faut arrêter là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir, enfin, comme les garçons que je vois, qui restent comme ça 10 ans, 15 ans là-dedans, à rester des mannequins. Et ça, c'est dangereux pour un homme, vraiment. Pour un être plus ou moins faible, quelque part, ça peut être un danger, sans arrêt. savoir être conscient de cette chose-là, c'est tout. Enfin, je veux pas être trop terre à terre, mais vous savez, ça peut très vite vous arriver une grande cicatrice sur la figure. Vous pouvez tomber dans la rue, un accident de voiture, une bagarre, n'importe quoi. Je veux dire, c'est très très superficiel tout ça. Je veux dire, on travaille avec quelque chose qui nous est physique. Voilà, c'est tout. Je veux dire, ça se passe là. Et faut être conscient de ça. C'est très bien. Je crois. Enfin, vous parlez de vedettes dans ce métier. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Je veux dire, il y a un top. Les tops chez les femmes. Bon, chez les hommes, il y en a quelques-uns comme ça qui travaillent pour du rédactionnel. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas d'être un top. Je préfère être un mannequin. Mannequin qui fait de l'argent et puis qui s'est fixé un but et puis qui va essayer d'y arriver.
C'était Le Monde Insolite, les mannequins au masculin par Nadia Voinovitch. Réalisation Colette Chemama, première diffusion sur France Culture le 13 janvier 1974. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. It's not that it stays us.